Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
C'est pas une surprise, mais la reine Élisabeth II est décédée. On tombe en émission spéciale à cette antenne. On va couvrir beaucoup de terrain là-dessus, sur cette nouvelle-là. C'est un prisme vraiment intéressant pour ce qui est de l'histoire, des traditions et du pouvoir aussi. Donc, on va aborder ça avec nos collaborateurs tout au long de l'émission. Ben, écoutez, petit rappel autobiographique, disons ça comme ça. London Bridge is down. Le pont de Londres est tombé. C'est la phrase codée, ça, qui avait été convenue depuis des décennies pour répandre dans les palais royaux du Royaume-Uni. La nouvelle du décès éventuel d'Élisabeth II, ben, c'est fait. London Bridge is down. La reine Élisabeth est décédée autour de 13h30, heure locale à Montréal, ici, là. Elle est morte à Balmoral, son domaine écossais. Et la BBC, le diffuseur public britannique, avait déjà préparé depuis très longtemps les mots très sobres qui allaient être diffusés sur toutes ces antennes. On va écouter un extrait de ce qui a été diffusé autour de 18h30, heure locale au Royaume-Uni.
The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.
Donc, la reine est décédée à 96 ans. On parle d'un règne quand même de 70 ans. Elle était la reine aussi, il ne faut pas l'oublier, de 14 États souverains, dont le Canada. Oui, la formule « la reine du Canada » était une formule correcte. Et de son fils aîné, là, on ne dira plus désormais le prince de Galles ou le prince Charles. Il est désormais le roi Charles III, roi du Royaume-Uni britannique et d'Irlande du Nord, roi de 14 États dont le Canada. Donc oui, préparez-vous, le visage de Charles III va bientôt être sur les billets de 20$ au Canada. C'est la tradition et Charles III est devenu roi au moment où sa mère est décédée, va être officiellement couronné dans les 12 mois qui viennent. Généralement, c'est aussi la tradition. Les funérailles d'Élisabeth II, elles, vont être célébrées dans 10 jours au terme d'une période de deuil national au Royaume-Uni. Quand même impressionnant. 15 premiers ministres britanniques ont défilé devant la reine, dont Winston Churchill, 14 présidents des États-Unis, 7 papes et oui, 12 premiers ministres du Canada. Statistique intéressante, 90% des Canadiens n'ont connu aucune autre reine qu'Élisabeth II et signe de l'importance de la nouvelle et aussi de l'éclipse médiatique que la mort de la reine provoque. Ben, le premier ministre François Legault a annulé ses activités de campagne aujourd'hui. Avec MC Gilles, Catherine Beauchamp, on accueille donc notre ami Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, grand amateur de royauté qui s'intéresse à la chose royale.
Qui arrive de Londres.
Oui. Ouais. Qui s'intéresse à la chose royale, même hors des périodes de deuil. Salut Philippe Audrey.
Allô.
Salut Cap.
Bonjour.
Salut MC.
Salut.
Hey Philippe Audrey, tu dois être déçu d'être revenu hier de Londres.
En ce moment, ça. Je sais pas, je me sens moins bien que je me prévoyais pas être en santé, là, mais là, je me sens vraiment pas super bien. Puis c'est pas un événement que je tenais à vivre nécessairement là-bas. T'sais, c'est pas un concert non plus. C'est pas un événement joyeux ou un jubilé quelconque. Mais non, j'ai l'impression que c'est un peu comme... C'est drôle à dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme quand quelqu'un dans la famille d'un autre meurt, t'as pas le goût de t'infiltrer là-dedans. Fait qu'il y a comme une part de moi, une pudeur peut-être, qui trouve ça correct finalement d'être rentré juste à temps. Mais je suis heureux d'avoir vécu littéralement le dernier jour de règne d'Élisabeth en Angleterre. Ça, je suis heureux d'avoir vécu la fin de l'ère élisabéthaine là-bas par contre.
Philippe Audry, c'est pas juste de l'ironie, là. T'es un fan de la monarchie, c'est quelque chose qui te passionne, tu lis là-dessus, tu vois tout ce qui se fait. J'ai une question pour toi. Il y a quelque chose d'assez particulier qui nous touche aujourd'hui, parce que c'est quand même notre reine, c'est notre chef d'État. Tu sais, l'adage dit, Le roi est mort, vive le roi. Dans ouais. le cas d'aujourd'hui, c'est particulier que dès à la seconde où sa mère est décédé ou t'as une tristesse, il devient automatiquement roi.
Ouais, ben c'est pour ça que la monarchie c'est quelque chose de vraiment compliqué à comprendre d'un point de vue sentimental et humain, parce que ça dépasse les sentiments puis l'humanité. Ta personnalité sert à rien quand t'es monarque à quelque part. T'es au service d'une institution qui s'appelle la couronne, puis la couronne représente le gouvernement. Donc il y a une sorte de cruauté à laquelle tu te soumets malgré toi, indépendamment de tes sentiments. Puis c'est la règle parce que ça a toujours été comme ça. Puis un pays peut pas ne pas avoir un pays sans roi, ça n'existe pas. Donc indépendamment de tes sentiments, t'as pas le choix d'assumer tes fonctions instantanément.
Et lui, depuis qu'il était enfant, était préparé à ça. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit, ta mère, le jour où elle va décéder, tu vas devenir roi. Donc
contrairement à elle, qui était qui est devenue souveraine très jeune.
Qui d'ailleurs, elle, on l'oublie peut-être parce que ça fait tellement longtemps, était pas censée être reine, ni son père. C'était Édouard VIII, en fait, son oncle qui a abdiqué pour se marier avec Wallis Simpson, une Américaine double divorcée. Là, c'est un scandale dans ces années-là. Mais elle, donc, est un peu arrivée par la bande, un peu sur le trône. Donc, elle a pas nécessairement reçu cette espèce d'idée qu'on a, que Charles a eu de l'éducation, de toi, tu vas être roi, donc tu vas tout étudier, tu vas tout apprendre pour être roi, puis on va te former sur mesure pour être roi. C'est vraiment une vie qu'elle s'est faite imposer, puis qu'elle a, ben j'ose dire, admirablement, puis d'un point de vue historique, accompli, en fait.
Les Anglais sont, je veux pas dire qu'ils sont sous le choc, parce qu'elle avait 96 ans, donc tu sais, on savait qu'elle allait décéder, on savait qu'elle était malade.
Mais en même temps, tu dis ça, mais par exemple, Prince Philippe est mort à 99 ans, sa mère Elisabeth est morte à 101 ans, donc on pouvait quand même anticiper un petit 3, 4, 5 ans peut-être.
Mais on savait, Philippe, qu'elle était malade.
Oui,
on avait parlé,
tout à fait.
On t'appelait là, quand il était question de nouvelles monarchiques comme ça. Mais quand même, les Anglais le prennent, je veux pas dire difficilement, mais c'est quand même un coup.
Oui.
C'est quand même quelque chose qu'ils accusent un peu comme la mort d'un membre de la famille. T'étais là-bas récemment.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'ils sont si attachés à la reine?
Ben, c'est ça que j'ai trouvé vraiment, vraiment touchant, parce que j'ai beaucoup parlé avec les Anglais là-bas, puis j'ai senti qu'ils étaient beaucoup plus attachés à Elisabeth, la femme, la personne, plutôt qu'à l'institution. En fait, quand je parlais avec eux, c'était beaucoup plus au fait de, cette femme-là a dévoué sa vie pour nous. Le peuple a comblé un rôle important, a assuré une stabilité à travers des, je veux dire, on pense à ça, son règne a commencé dans les années 50, donc à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les années 60-70, le monde en 1952 n'est pas le monde aujourd'hui, il y a une stabilité, et c'était vraiment l'idée d'un amour pour cette personne-là, pour cette madame-là, entre guillemets, sans manquer de respect, plutôt qu'à l'institution.
Et tu sais, ici au Canada, on fait figure d'exception au Québec.
Oui.
Tu sais, il y a pas une grande, affection pour la monarchie, pour plein de raisons. Mais je regardais les échos du Canada anglais. D'abord, la classe politique est en deuil.
Oui.
Beaucoup de commentateurs canadiens anglais relaient aussi ces sentiments-là. Puis je reviens aux Anglais en Angleterre. Ozzy Osbourne, tu sais, qu'on imagine comme un rocker, mangeur de chauves-souris, etc. Écoute, il a envoyé un message très émouvant où il expliquait qu'il était très touché par la mort de la reine.
Ouais, ben c'est ça qui est fascinant en Angleterre, c'est que l'Angleterre est quand même je vais parler de Londres, en fait, parce que Londres est l'épicentre d'une contre-culture, en tout cas en Occident. C'est le rock vient de là. Il y a beaucoup de choses importantes qui sont apparues là, la culture punk entre autres choses. Et en même temps, il y a une espèce de respect absolu et total de cette institution-là qui est la monarchie. Avant d'y aller, j'étais pas convaincu que Charles serait roi ou il est pas populaire, mais Charles va être roi, la monarchie va rester, ça je suis à peu près convaincu. En tout cas, au fil des conversations que j'ai entretenues avec les quelques londoniens. En même temps, j'ai pas fait un sondage là qui avec tous les londoniens du monde là, mais je veux dire, avec les Anglais avec qui j'en ai parlé, visiblement, la monarchie, c'est important. Visiblement, la monarchie, c'est quelque chose... En fait, la fierté de leur identité est liée à ça. C'est la fierté de leur pays, c'est la grandeur de leur nation qui est reflétée à travers non seulement cette institution-là, mais cette historicité-là, mais tout ce que ça représente.
Reste, Philippe Audry, que Elisabeth représentait la stabilité. On la croyait éternelle un peu.
Un peu.
Et le fait qu'elle disparaisse, on voit pas juste sur les réseaux sociaux, mais même sur les fils de presse, qu'il y a déjà des questions qui se posent. L'ironie du sort veut en plus qu'elle est décédée à Balmoral, qui est en Écosse.
Ouais. Mm-hmm.
On peut pas dire que l'Écosse en ce moment est très 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 pour le
non.
Bon, ils ont des idées sécessionnistes. Oui, oui. Bon. Et il y a beaucoup de pays qui disaient à l'après la reine, on va se poser des questions sur notre Commonwealth et tout ça. Donc quand on dit que c'est la fin d'une époque, beaucoup de gens nous écrivent pourquoi vous en parlez autant que ça, parce que c'est quelqu'un qui a vécu pratiquement un demi-siècle et qui a vécu tout ce qui s'est passé.
Elle a vécu un siècle.
Et, ouais. je pense qu'en ce moment, ben là, on se pose tous la question, maintenant qu'on parle du nouveau monde,
ouais,
une nouvelle philosophie, des gens pas tous aussi stables qu'elle était, ben c'est le moment aussi de réfléchir sur quel est l'avenir.
Puis l'Angleterre, on a vu une nouvelle première ministre, il y a des graves problèmes économiques.
Elle l'a rencontré il y a deux jours.
Exactement. L'Angleterre même est en crise économique sévère et majeure et politique. Donc, le prince Charles, qui est pas une figure populaire, qui est pas nécessairement aussi stable que sa mère en termes de force, on va dire, de présence, ça va être vraiment intéressant de voir comment il va asseoir son pouvoir et stabiliser les choses.
La famille est déjà...
Oui, aussi.
Mais il y a William, tu sais, qui est la lumière au bout du tunnel. Peut-être pour 20 ans, il va y avoir Charles, mais quand William va arriver, j'ai l'impression que la popularité pourrait revenir. Ouais.
Ce qu'on sait, c'est que Charles ne va pas régner pendant 70 ans, 7 mois et 2 jours.
Non,
Es-tu surpris, Philippe Audry, que Charles ait choisi d'adopter le nom Charles III, parce qu'il y avait des spéculations à savoir s'il irait plutôt vers Georges VII, je pense.
Ouais, je suis étonné d'une certaine façon, parce que Charles, comme je disais, il est pas très populaire. Sa cote de popularité aux dernières nouvelles était à peu près 42%, ce qui est, à titre comparatif, la reine était à peu près autour de 70 à 80% dépendamment.
En Angleterre, ça?
En Angleterre, oui, je veux dire en Angleterre. Puis William, ça a toujours été autour de 70%, 65, 70%. Charles est vraiment de ça. C'est vraiment le moins populaire, à part évidemment Andrew et compagnie, là, mais bref, je suis assez étonné, parce que peut-être que ça allait marquer une espèce de, en choisissant un nom qui allait rendre hommage à son grand-père, Georges VI, c'était peut-être une façon de relancer un peu, renouveler son image, marquer le fait que Charles était Charles et moi, le monarque Charles sera quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc là, il veut assurer une certaine pérennité, probablement, de son histoire à lui. Je suis assez étonné, puis en même temps, c'est déjà, je trouve, un acte courageux, entre guillemets. C'est quand même pas sauver des enfants dans un immeuble en feu, là. Mm-hmm. Mais je veux dire, il y a un acte de courage à travers ça, d'assumer sa propre identité derrière ça.
Ce matin, je sais que on déplaçait là, les membres de la famille royale Balmoral, justement. Puis il y avait Harry, lui, qui... En fait, là, je me dis, est-ce qu'il a eu le temps de voir sa grand-mère? Je pense pas. Hein?
Je sais pas.
Parce qu'il prenait un vol, j'imagine, de Los Angeles.
Oui, puis non, il était
en Europe.
Oui, puis d'ailleurs, tu vois, quand j'étais là-bas, j'ai vu la détestation des Anglais pour Meghan Markle. Elle a fait un...
Alors pour eux, c'est de sa faute. C'est la Yoko Ono de la monarchie.
Ah oui, mais ben, en tout cas, ils ont fait un verbatim de son discours qu'elle a fait dans une... Je me souviens pas exactement, mais... Et elle a parlé d'elle 54 fois dans un discours qui s'adressait à la jeunesse. Fait que déjà, tu sais, je trouve que c'est quand même spécial de s'adresser à la... Fait que non, il est parti seul et je pense qu'il y a eu le temps, parce qu'ils sont... Il y a eu un suivi assez serré de qui entre et quand et qui entre à Balmoral.
Il y a quelqu'un qui m'écrit, est-ce que quelqu'un a pensé au coût de changer toute notre monnaie?
Ouais.
On change pas la monnaie, on va pas retirer
les
billets et les pièces de monnaie en circulation. Là, c'est les nouvelles pièces de monnaie. Les
puis demain, la reine va être encore sur nos pièces.
Oui,
là,
faites-vous en pas.
Et nos timbres.
Oui.
Je lisais des papiers fascinants sur la façon dont tout est réglé au millimètre et à la seconde près pour les prochains jours, jusqu'aux funérailles de la reine. Et après ça, tout ce qui va entourer la cérémonie de couronnement de Charles, c'est-tu quelque chose qui te fascine aussi?
Oui, parce que, bon, les funérailles, je vais être honnête, un peu moins, parce que c'est quelque chose de funeste, en fait. Puis c'est on en a déjà vu des funérailles royales.
Mais on n'a pas vu de couronnement.
Non, on n'a pas vu de couronnement, ou en tout cas très rares sont ceux qui l'ont vu, le couronnement de 1952. Puis c'était même pas en direct, c'était en différé en plus. Le couronnement va vraiment m'intéresser, parce que c'est pratiquement une cérémonie sacrée. C'est des gestes qui vont être répétés, qui sont répétés de génération en génération, de siècle siècle en siècle.
Le trône date du 13e siècle.
Ouais, oui, et c'est pas seulement un chef politique, c'est un chef religieux aussi, ce qui est syrien.
C'est donc tout ce qu'on va voir, c'est des gestes pratiquement, entre guillemets, là, mais millénaires. Là. C'est des gestes qui ont été... on regarderait le couronnement en 1937 de George VI, ça serait les mêmes gestes, le couronnement évidemment de 1952. Donc, il va y avoir quelque chose de vraiment fascinant de voir ça avec la perspective d'aujourd'hui. À cette époque-là, ou bien c'était des relevés, ou bien c'était distant, puis on était encore dans des sociétés un peu plus hiérarchisées. Il y a eu des révolutions, la Révolution tranquille au Québec, par exemple, où on s'est vraiment démocratisé, où la prise de parole personnelle, l'affirmation personnelle est devenue très importante. La rupture avec l'histoire, d'une certaine façon, nous, on l'a vécu à notre façon. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir cette espèce d'incrustation millénaire-là dans une société moderne.
Mais là, imagine, parce que, bon, j'ai vu les images, et vous pouvez aller voir sur YouTube, du couronnement de la reine Élisabeth.
Ouais.
Et là, on est en 2022. Ouais. L'Occident est en guerre. La Russie est entrée en Ukraine. La sécurité, tous les chefs d'État du Commonwealth et probablement du monde entier vont voir y aller. Non, mais as-tu pensé le bordel que ça va être?
J'ai lu qu'ils ont droit à 2000 invités.
Ça va être... pas une petite chose.
Ça va être... tu sais, d'habitude, la sécurité, c'est les là où la sécurité est omniprésente. Mais les Olympiques, la Coupe du monde de soccer, voilà. les grands sommets, le G7, etc. Là, ça va... Je pense pas que ça va battre absolument tout, mais il va avoir du dignitaire au pied carré.
Ah ben oui. On n'a pas 4 ans pour le faire, Pat. Là. Faut le faire là. Là.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Je me tourne maintenant vers un de nos collaborateurs à la station. On peut l'entendre chaque jour avec Luc Ferrandez. Luc Lavoie, que vous connaissez bien, a été conseiller politique dans l'équipe de Brian Mulroney. On lui a parlé il y a quelques jours pour le décès de Mikhail Gorbatchev. Ben, il a aussi déjà croisé le chemin de la reine Élisabeth II, décédée aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Salut Luc!
Salut, Pat.
Luc, dis-moi, d'abord, quand on rencontre la reine comme ça, raconte quel est le protocole. On peut pas dire ce qu'on veut à la reine.
Ah oui, la première fois que je l'ai vue, on avait eu une séance de briefing sur le protocole. Alors, on ne sert pas, on n'offre pas de serrer la main de la reine à moins qu'elle l'offre elle-même. Enfin, il y a toutes sortes de détails comme ça qui sont très, très rigides quand ils nous sont décrits par les gens qui entourent la reine ou qui entouraient la reine, mais qui sont... La reine elle-même n'était pas si mordue que ça, le protocole. Elle faisait ce qu'elle voulait, tendait la main. Elle suivait pas nécessairement ce qu'on nous disait. Enfin, c'était elle qui était la reine, alors voilà.
Tu l'as rencontrée combien de fois?
Ben, je lui ai parlé 3 fois, à 3 occasions à travers les années, et je l'ai vue 9 fois. J'ai compté ça cette année. Je l'ai vue 9 fois. Alors, je l'ai vu la première fois, j'étais un très, très jeune journaliste, 1977, à Ottawa. La reine venait pour célébrer le 25e anniversaire de son couronnement, une visite officielle au Canada. Et le contexte, faut s'en rappeler, c'était que quelques mois, 7-8 mois auparavant, René Lévesque avait été élu premier ministre du Québec. Donc, on parlait d'indépendance du Québec. Et ils avaient peur, ceux qui organisaient la visite, qu'on la fasse trébucher sur des histoires qu'il y avait à voir avec la politique interne du Canada. Alors, dans leur calcul, ce qu'ils faisaient pour les journalistes qui couvraient la tournée de la reine étaient accrédités. Ils faisaient un cocktail pour les journalistes accrédités. Et donc, j'étais parmi ceux-là. Et on était à Rideau Hall, la résidence du gouverneur général, dans le grand salon. Et tout à coup, Sa Majesté a fait son entrée, accompagnée de des gens qui travaillent avec elle. Et elle s'est dirigée directement vers nous. On était 4-5 journalistes québécois qui étions ensemble. Elle s'est dirigée directement vers nous. Donc, quelqu'un l'avait guidée, lui avait dit d'aller là pour elle voulait qu'on sache qu'elle parlait bien français et que ce soit rapporté ainsi. Alors, elle était arrivée, puis elle avait entrepris de converser avec nous. Ça avait été... quand même, tu t'attends pas à ça. Là. Mm-hmm. Depuis que t'es au monde sur la voie sur les pièces de monnaie, t'as la voix partout. Là, t'es en avant de toi, pas te parle. Moi, elle me parlait. Voyons, tu sais, le gars de Rimouski, il jasait avec la reine. Alors, c'était vraiment... un peu particulier, mais la meilleure anecdote en lien avec ce moment-là, c'est que parmi les journalistes, s'il m'entend, il va peut-être être fâché contre moi parce qu'il est toujours très vivace. Un de mes collègues de la presse canadienne qui s'appelle toujours Claude Papineau. On nous avait dit au moment de cette rencontre-là qu'on ne pouvait pas rapporter quoi que ce soit qui était dit pendant le cocktail et que si on n'était pas prêt à accepter cette règle-là, on devrait quitter. Alors, mais tout ça, ce briefing-là, ça, bon, on est là. Et notre ami Papineau, qui toujours son air un peu bourru, à un moment donné, il dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que les premiers ministres des provinces venaient à Ottawa pour la visite officielle, mais René Lévesque n'allait pas être là. Alors, elle dit, mon collègue me lui demande, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que René Lévesque sera pas là? Ben, lui dit, ben, c'est très triste, j'aurais aimé le voir. Alors, mon chum Papineau, il sort, il fait une manchette, se fait le Canada d'un océan à l'autre. La reine est attristée par l'absence de René Lévesque. Et là, c'est un brouhaha, Patrick, c'est incroyable. La Canadian Press, l'agence mère, décide qu'il faut le congédier. Le groupe francophone.
Parce qu'il avait brisé le serment de silence.
Voilà. Alors, le groupe de direction de la presse canadienne francophone décide que c'est trop, on fera pas ça, puis ça flottait un peu, puis à un moment donné, Papineau s'en est sur la rue le lendemain, puis il y a un caméraman avec un journaliste de Radio-Canada, je me souviens pas lequel, qui arrive avec son micro, comme disait Papineau, ils m'ont scrumé, il arrive avec son micro, puis il dit, est-il vrai qu'on vous avait dit qu'il était interdit de rapporter ce qui serait dit pendant un cocktail? Papineau, qui est parfaitement bilingue, en fait, qui est marié avec une anglophone, répond à ça. Il dit, il paraît qu'ils ont dit ça, mais ils l'ont juste dit en anglais. Puis s'ils disent juste en anglais, c'est parce que ça n'a pas rien à voir avec moi. Alors, ça, c'était ma première rencontre avec Sa Majesté. Ma deuxième, ou ma première discussion, la deuxième fois que j'ai pu parler avec elle, elle était venue en visite officielle quelque part vers 1990. Et ma fille avait 4 ans, ou 5 ans. Et elle était dans les contes de princesses, puis de reines, puis d'affaires comme ça. Alors, il avait dit, Alexandra, ton père va t'amener voir une vraie reine. Alors là, t'es excité, comprends-tu? Le jour venu, là, c'était avec sa mère, fallait choisir sa robe, puis ses petits gants de dentelle. Elle allait voir une reine. Elle avait aucune idée c'était qui, mais elle allait voir une reine. Alors, la reine avait été avisée qu'il y avait un membre du personnel, un senior official, comme on m'appelait à l'époque, qui allait avoir sa fille avec lui pour saluer la reine. Alors, la reine, au moment voulu, après être sortie des foules, tout ça, alors que ça prête à monter dans la voiture, elle s'avance, ben, elle lui donne la main, elle se penche vers elle. Puis je vois que ma fille, il n'y a pas de réaction. Non, mais quoi? La reine s'en va, puis je lui dis, mais t'as pas l'air contente. Ben, dit, était où sa couronne?
Luc, j'adore cette anecdote-là. Luc, t'as travaillé à Ottawa, tu connais bien le Canada anglais, très, très bien. Je comprends la tristesse immense des Britanniques, mais je dois te dire, j'entends les échos du Canada anglais depuis cet après-midi. Il y a beaucoup de commentateurs, beaucoup de politiciens, de gens en vue qui sont sous le choc, attristé, il y a un réel deuil au Canada anglais.
Il y a un réel deuil au Canada anglais, mais il faut faire attention à une chose. Il y a deux choses en jeu ici. La monarchie comme institution et la personne de la reine Élisabeth. La reine Élisabeth, c'est un des personnages les plus photographiés des 100 dernières années. C'est un des personnages les plus connus. C'est une femme qui n'a jamais eu de controverse comme ses enfants en ont eu. Plus que nécessaire. C'est une femme, donc, qui est au-dessus de ça. Donc, les gens ont un attachement à elle. Mais regarde comme il faut dans les sondages, quand on verra, il y en a à l'occasion, l'attachement à la monarchie comme institution et comme, chef d'État du Canada, c'est beaucoup moins populaire que ce l'était. Et moi, je pense sincèrement que le roi Charles III, ça se vendra pas du tout. C'est au Québec, c'est pas vendable. Même en Angleterre, il y a à peine 40% des gens qui l'appuient. Beaucoup souhaitaient qu'il saute son tour puis qu'il laisse son fils monter sur le trône. Ça va être très, très différent comme atmosphère. Et je pense pas qu'il va se créer ce lien d'amour. Tu sais, moi, j'oublierai jamais une image qui vraiment, même quand je la regarde aujourd'hui, quand ça arrive qu'on la voit, je viens, le moton, c'est en 1945, le jour de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai 1945, la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et il y avait devant le Buckingham Palace des centaines de milliers, on dit 1 million, je trouve ça beaucoup, mais des centaines de milliers de personnes. Et sur le balcon, tu avais le roi George VI, la reine-mère Élisabeth et les deux princesses, Margaret et Élisabeth, qui étaient habillées en vêtements militaires. Et à cette époque-là, il y avait une chanteuse qui était la plus populaire au monde, qui s'appelait Vera Lynn. Je pense qu'elle est encore vivante, elle a 102, 103 ans. Et là, elle avait fait une chanson à cette époque, la dernière année de la guerre. Il disait « We'll meet again, don't know where, don't know when ». Et c'est une chanson dont la mélodie est connue de tous. Et on voyait cette image de famille royale, dont les deux jeunes princesses, qui étaient magnifiques, et qui chantaient très, très fort la chanson avec cette poule-là. « We'll meet again ». Et ça, ça reste, là, tu voyais comme une sorte d'émotion chez la famille royale et chez les gens qui venaient de traverser le pire cauchemar de l'histoire de la civilisation.
Est-ce que quand il y a beaucoup de gens qui trouvent absurde le fait que bon on ait vécu sous l'égide de la reine du Canada, là c'est le roi du Canada Charles III, quels sont tes sentiments face au fait que on est encore inféodé d'une certaine façon à un souverain comme ça étranger?
Alors essentiellement je suis anti-monarchiste. Pas simplement dans le contexte canadien, je pense que c'est un anachronisme historique. De quelle légitimité se réclament-ils? Parce qu'ils sont les enfants de quelqu'un qui était roi, ils ont droit à ça. Moi, je trouve que c'est un anachronisme, c'est du folklore presque. Mais quand on arrive et qu'on dit, mais comme chef du Canada, là, je te le dis, Patrick, je décroche, j'ai toujours décroché. Je trouve ça ridicule, je trouve ça insignifiant. Je me demande comment ça se fait. Tu sais, on pourrait très bien garder les mêmes institutions parlementaires et avoir un président de la République élu soit au suffrage universel, soit par les deux chambres du Parlement, mais d'avoir le souverain britannique à la tête de notre pays, c'est rendu tellement ridicule que je pense qu'il y a déjà un pourcentage assez élevé de Canadiens pour qu'on pense à se débarrasser de ce lien-là. Mais d'un autre côté, ça obligerait la réouverture de la Constitution. Et tu sais ce que ça veut dire.
Je sais ce que ça veut dire et je te laisse sur cette ironie. Tantôt, on a interviewé un professeur de l'Université Carleton qui nous disait qu'au Royaume-Uni, le Parlement pourrait juste abolir la monarchie avec une loi qui serait adoptée à la majorité simple. Ici, au Canada, c'est plus compliqué de couper les liens qu'en Grande-Bretagne.
Oui, c'est effectivement plus compliqué parce qu'il faut changer la Constitution. Et quand on sait ce que ça donne, dès que tu ouvres la boîte Pandore de la Constitution, ben là, tu vois tout le monde qui va éclamer tout le monde en même temps, tout ça. Puis la monarchie britannique qui va être mêlée dans ça. Moi, je pense qu'on va voir disparaître la monarchie, mais que ça va se faire graduellement. Ça va être de moins en moins présent. Il y a déjà des pays comme l'Australie qui sont sur la bonne voie d'y mettre fin. Il y a des plus petits pays comme les Bahamas, certains pays africains qui y ont mis fin. Alors, cette appartenance à la famille du Commonwealth avec le chef d'État qui est le souverain britannique, c'est une anomalie, pour ne pas dire pire encore.
Merci pour les anecdotes, Luc.
Au plaisir.
À la prochaine. Luc Lavoie, collaborateur ici au 98.5, on peut l'entendre chez Luc Ferrandez et aussi a travaillé avec Brian Mulroney et a donc pu rencontrer la reine à quelques reprises. Comme on dit à Ottawa, c'est priceless l'anecdote de sa fille qui n'était pas impressionnée par la reine qui n'avait pas de couronne. Ben oui, ça devrait avoir une couronne, une reine.
Le père de ma fille avait joué, lorsque la reine était venue au Canada, avait joué dans le... Il est saxophoniste, avait joué dans le groupe pour une des soirées. Puis évidemment, ils s'étaient fait présenter à la reine. Puis il ne savait pas quoi faire. Fait qu'il a dit « Nice to meet you ». Puis il a donné comme la main. Je pense que c'était pas censé faire ça. C'est comme Louis Garneau aussi qui l'avait prise par les épaules.
Si vous regardez la reine à ces événements-là, parce qu'à chaque fois, il y avait une ou deux personnes qui connaissaient pas. Mais habituellement, elle trouvait ça assez comique parce qu'elle savait que c'était pas des gens malfaisants là, c'est que quand t'es pas au courant, t'es juste pas au courant. Et puis je me rappelle de notre ami Jean Chrétien, premier ministre adoré de Shawinigan. Des fois c'était un peu sur la ligne, il était un peu trop gentil avec elle, un peu trop près.
Donc si vous rencontrez un souverain comme ça, si vous rencontrez Charles III, ben vous ne le touchez pas. premier ministre Justin Trudeau, qui dit sa tristesse à l'annonce du décès d'Élisabeth II.
Dans un monde très compliqué, sa présence, sa grâce, sa force a été une ressource importante pour nous tous. C'était une de mes personnes préférées au monde et elle me manquera énormément.
Jean-François Nadeau n'est pas un grand fan de la monarchie. Il est en studio. Salut Jean-François.
Salut.
Chroniqueur au devoir, souvent t'as écrit sur notre rapport à la monarchie. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, allons-y avec qu'est-ce que tu penses des mots de M. Trudeau?
Ben, c'est un peu particulier, j'imagine, son père, parce que son père avait un rapport un peu moins doucereux à la reine. Mettons, on se souviendra de la pirouette qui avait fait le tour du monde, où il s'était un peu littéralement moqué d'elle dans une salle de bal, en se retournant et en faisant véritablement une pirouette derrière elle. Disons qu'il prenait ça un peu par-dessus la jambe. J'ai l'impression que dans les prochains jours, dans les prochaines heures, on va avoir beaucoup de gens larmoyants qui vont nous déclarer l'amour indéfectible qu'on a toujours eu pour la reine. La réalité était peut-être un peu plus triste. Au Québec, les derniers sondages qu'on a, qui datent de l'année passée, je pense que c'est la firme Léger qui les a faites, c'est autour de 75% toutes origines confondues au Québec des gens qui sont opposés à la monarchie. Ça monte à plus de 80%, je pense près de 85% chez les Québécois francophones. Puis dans le reste du Canada, il faut pas se raconter d'histoire non plus. C'est une affection qui est en chute libre depuis des années. Bien sûr, il y a un rapport à la monarchie qui est plus vivant, par exemple, dans des villes comme Victoria, puis dans des cercles qui sont près du pouvoir. Ça, on l'a vu depuis plusieurs années. Mais au-delà des petites tasses, puis des cuillères en argent, puis des assiettes commémoratives, puis des timbres poches, puis tout ça, puis on y reviendra, les timbres poches, je pense que c'est important. Ça témoigne ça d'une forme de permanence tranquille d'un règne qui a beaucoup, beaucoup marqué toute l'histoire de la planète. Hein. C'est un empire au 19e siècle où on disait que le soleil ne se couchait jamais sur lui parce qu'il était du Pakistan en passant par la Nouvelle-Zélande, au Canada, par les Bermudes, cette royauté-là régnait là-dessus. Alors quand le premier ministre du Canada dit « Bien sûr, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une femme très forte », c'est d'abord une héritière. Hein. C'est la suite d'un pouvoir auquel elle ne doit rien.
Et c'était la reine du Canada. Comme son fils devient le roi du Canada.
Oui, automatiquement, ça devient la reine du Canada. Et la reine elle-même, avant de devenir reine, n'avait pas oublié pourquoi elle l'était. Puisque la première fois qu'elle vient ici, en arrivant au Québec, elle fait un peu comme Charles de Gaulle va le faire en remontant avec un vaisseau le fleuve Saint-Laurent. Elle demande à être débarquée à Lens au Foulon en 1951. C'est là, ça, où le général Wolfe a débarqué ses troupes pour l'invasion. Et elle refait exactement le même trajet que le général Wolfe a fait en 1951. Oui, c'est quelqu'un qui, au-delà de l'ours Paddington et tout ça, avait quand même une conscience de son rôle politique qui est important. Bien sûr, il y a la mise en scène de tout ça qui est assez extraordinaire. Moi, il y avait dans mon village un personnage que j'aimais beaucoup, ces personnages de village dont on a tous, qui s'appelait Gérard Pageau. Je l'ai vu toute ma jeunesse se promener avec un vélo remontant de l'usine. Ça faisait puis avec son habit en forterelle noire. Puis un jour, il s'est acheté une voiture, une Pontiac parisienne. Comment il s'était acheté une Pontiac parisienne? Parce qu'il avait demandé, c'était un collectionneur de timbres. Il y en avait beaucoup, ça, jusque dans les années 80, des collectionneurs de timbres. Il demandait à son usine d'être responsable de l'achat des timbres et il était tombé sur des planches de la reine Élisabeth qui étaient mal coupées. Et avec ça, il avait pu les vendre à l'encan et se payer une voiture neuve. Mais la reine Élisabeth, comme la reine Victoria, c'est la figure sur les timbres postes qui a été le plus représentée à travers le monde. Et ça, ça dit quelque chose aussi du pouvoir. C'est un système de représentation du pouvoir qui va au-delà de la culture populaire, qui marque un imaginaire politique. Vous avez, quoi que vous fassiez, la possibilité de lécher le derrière de la reine en le plaçant sur une enveloppe pendant 60 ans. Si vous ajoutez la reine Victoria, ça fait pas mal longtemps.
Ça colle tout seul maintenant.
Ça colle tout seul, oui.
Comment on pourrait qualifier, Jean-François Nadeau, le rapport des Québécois avec la couronne?
Le rapport, contrairement à ce qu'on s'imagine, là, historiquement, il a été très, très bon. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la figure de Pierre Bourgault. Hein. J'ai écrit un livre sur Pierre Bourgault. Mais Pierre Bourgault, quand il est petit à Istingus, il a 9 ou 10 ans, on a une photo de lui assez célèbre où il agite un Union Jack.
Gros contraste avec le Bourgault adulte.
Un assez gros contraste, merci. Et il va, à ce moment-là, témoigner de son affection comme tous les petits garçons de son âge pour la monarchie britannique. Puis ça va durer ça tout au long des années 50 aussi. Il faut au fond attendre 1964, en octobre, avec la montée du mouvement indépendantiste, pour qu'on se rende compte que là, il y a un phénomène d'aliénation. Hein? Il y a un phénomène où, au fond, les Québécois ont été mis, et comme d'autres peuples du monde qui ont été soumis à la monarchie britannique, qui ont été mis devant une forme d'adoration de quelque chose, au fond, qui faisait pression sur eux. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup d'indépendantistes à Québec qui avaient décidé donc de manifester contre la venue de la reine, et ça a été réprimé très sauvagement. C'est ce qu'on va appeler le samedi de la matraque. Il y a eu un nombre considérable d'arrestations, de blessés, et ces images-là ont fait le tour du monde. Et lorsque la reine, le lendemain, se promène dans la ville de Québec, on se rend compte, au fond, qu'il n'y a personne pour l'accueillir. Et à partir de ce moment-là, la reine va toujours un peu éviter dans ses séjours officiels
la visite. Ce fut sa dernière visite.
Oui. C'est un accueil moins délirant qu'à Moose Jaw ou Winnipeg.
On peut croire ça. Il faut dire qu'elle était quand même omniprésente. Moi, je me souviens d'une immense déception. J'étais petit, j'étais parti en Colombie-Britannique avec mon père en 1976. À ce moment-là, on utilisait de la pellicule Kodachrome qu'il fallait faire développer à Toronto. Et que lorsque les diapositives Kodachrome sont revenues, on n'avait pas nos photos de voyage, on avait des photos de la reine à l'inauguration des Olympiques de 1976. On les a encore à la maison. J'ai jamais compris pourquoi ils nous avaient envoyé ça.
Ils sont trompés.
Oui. Ils voulaient connaître ta carrière future. Non,
oui, non, sans non. doute.
Ils voulaient convertir des Québécois. Mais quand même, même s'il y a eu une affection jusqu'aux années 1960, il y a un tournoi, là, quand même, il y a eu un tournant. La construction de l'hôtel Reine-Élisabeth, le Queen E, comme disent les Anglos, ben, ça a quand même fait grincer des dents à Montréal dans les années 50.
Oui, c'est assez extraordinaire, ça, parce qu'on se rend compte que c'est un hôtel en plein centre-ville, le premier hôtel luxueux, moderne. C'est là où Fidel Castro va débarquer en 1959 pour la première fois. Des orchestres de jazz, des personnalités internationales. John Lennon a fait son bed-in, là, en 1969 avec Yoko Ono. Et ça s'appelle le Reine Elizabeth. En anglais, hein, The Queen Elizabeth. Il n'y a pas de version française. Et c'est le président du Canadien national, M. Gordon, qui tient mordicus à cet hommage-là à la reine. Or, le président du Canadien national, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs avec Air Canada, dit il n'y a pas de raison que sur le conseil d'administration du Canadien national, on trouve des Canadiens français parce qu'ils ne sont pas assez formés. C'est ce qu'il va dire un peu plus tard. Or, lui, on se rend compte qu'il n'y a pas une cinquième année. C'est assez fabuleux. Et il va y avoir plusieurs manifestations contre l'hôtel Reine-Élisabeth comme un symbole d'aliénation à ce moment-là à Montréal. C'est des choses qu'on oublie, mais qui ont profondément marqué l'imaginaire québécois et qui expliquent en bonne partie à quel point aujourd'hui, il y a si peu d'affection dans la population québécoise pour la reine Élisabeth.
Jean-François, dans tes chroniques, dans Le Devoir, tu parles souvent de pauvreté, d'inégalité, du côté très vulgaire de la richesse. Même si il y a beaucoup de classe dans la couronne britannique, il y a quand même quelque chose d'un peu vulgaire dans la richesse de la monarchie.
Oui, l'argent, au fond, c'est jamais vulgaire. On en fait bien ce qu'on veut. C'est sûr que la reine Élisabeth elle-même serait en principe détentrice d'une petite fortune. Hein. C'est quelques millions de dollars, à peu près 600 millions de dollars en propre, c'est rien.
Deux fois rien.
C'est banal. La fortune des Windsor, par contre, est évaluée à 30 milliards de dollars. Si on veut faire des comparaisons avec des figures britanniques importantes, on pense à Sir Paul McCartney, hein, parce qu'il a été ciré, comme on dit au Canada français. On le voit moins, mais pendant longtemps, ici au Canada français, on cirait, comme on disait, un certain nombre de personnalités aussi au nom de l'Empire. Ça a été le cas pour celui qui a écrit l'hymne national du Canada, pour Wilfrid Laurier, pour un certain nombre de personnages qui, tout d'un coup, étaient mis dans
anobli.
Anobli, sous les formes. Alors, J.K. Rowling, l'écrivaine qui a fait le
Harry Potter,
elle est gratifiée d'une fortune d'à peu près 1 milliard de dollars. Si on compare à Elon Musk, c'est 275 milliards, c'est presque rien. Donc, la reine, c'est considérable, mais on comprend que l'argent n'est pas son seul héritage. Au fond, c'est le pouvoir qui vient avec. Et au fond, l'idée de l'héritage que soulevait d'ailleurs Québec solidaire ces derniers jours, on en a un beau symbole avec ce qui est de la monarchie britannique, c'est-à-dire que l'argent, c'est pas juste l'argent, c'est le pouvoir qui vient avec. C'est une chose que d'hériter de l'argent que vos parents ont fait, c'est une chose que d'hériter du pouvoir et de l'argent que vos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents ont fait et qui vous maintiennent les gens autour de vous dans une forme de soumission de laquelle ils peuvent pas sortir à moins de renverser ce régime-là.
Mais il y a quand même quelque chose de fascinant parce que tu parlais de la reine qui vient au Québec et qui refait le chemin du général Wolfe à cette époque-là. la monarchie britannique avait un réel pouvoir. Aujourd'hui, c'est un pouvoir d'influence. Ça demeure quand même un pouvoir, mais c'est plus basé sur une autorité exécutive.
Oui, en partie, bien sûr, mais on se souviendra que les symboles ont une importance dans les régimes politiques qui est considérable. Quand Jean le Sage refuse de négocier des premières conventions collectives dans les années 60 avec les gens de la fonction publique, il leur dit quoi? De sa hauteur, il a une voix de stentor, il parle un peu comme un lion, il est considéré comme l'homme le plus beau de son époque, hein, Jean le Sage, au début des années 60, et il dit « La reine ne négocie pas avec ses sujets ». C'est exactement ce que la lieutenant-gouverneur va dire au moment de son procès, hein, en disant bon, on n'a pas de raison. Madame Thibault disait, ben, j'ai pas de raison de m'abaisser au système de justice qui est là. Je représente la monarchie.
La reine contre la reine.
Queen can do no wrong.
Oui, voilà, exactement. Alors, je vous mets au défi, Patrick, là, du jour au lendemain, nous autres, si on décidait d'abolir la monarchie, tout le système canadien s'effondrerait, hein. C'est au nom de ça que toutes les lois sont faites. Ça, un symbole, peut-être, mais ô combien important.
En terminant, que penser, du successeur d'Élisabeth II, Charles III?
Ben, Charles III plus 1 plus 2 plus 4, il y a quelque chose là de la monarchie qui est fascinant. Moi, je l'ai vu en vrai, Charles 2, 3, 4, devant l'enceinte des Black Watch sur la rue Berry en 2014. Il devait se présenter parce qu'il est colonel, général ou je ne sais trop, honoraire des Black Watch du régiment à Montréal. Il a jamais réussi à rentrer dans la porte principale.
Pourquoi?
Il y avait littéralement une forme d'émeute devant pour le repousser. Il était obligé d'entrer par la porte de derrière puis ressortir de la même façon en catimini. Disons que ça avait rien de très royal.
Je comprends bien, une petite tasse de thé avec la reine dessus, là, ça t'intéresse peu.
Ben, le thé, les tasses de thé sont prises en général en Angleterre dans une porcelaine qui s'appelle le bone china. Pendant des années, le bone china a été fait avec les os réduits en bouillie des bisons de l'Ouest canadien. Alors, on a tué des millions de bisons pour faire les tasses de la royauté. Moi, déjà, ça me donne pas envie de boire du thé.
Tu viens de me couper une soufflette.
Et un gâteau reine Élisabeth?
Ça, j'aime ça en maudit.
Parce que vous savez que c'est ici. Hein? Oui. Ailleurs dans le monde, c'est plus rare.
Oui. Toujours un plaisir, Jean-François. Merci. Merci. Jean-François Nadeau, chroniqueur au Devoir.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
La reine Élisabeth II est décédée. C'était une figure très aimée en Grande-Bretagne. C'était une figure aussi très présente dans la culture populaire.
Oui, on dit que c'est là ou sinon une des personnalités les plus connues au monde et son image a été utilisée à plusieurs reprises. Elle symbolise évidemment l'Angleterre et on a décidé d'en parler avec Luc Dupont qui est professeur de communication à l'Université d'Ottawa qui est spécialiste en marketing et en publicité. Bonjour Luc Dupont.
Bonjour.
J'ai fait le tour un peu, j'ai essayé de regarder comment l'image de la reine avait été utilisée au gré de son règne. Et Luc, quand même, là, il y a beaucoup de choses qui concernent la reine. Ça commence par évidemment la monnaie, les billets de banque, mais ça va beaucoup plus loin.
Oui, effectivement, les timbres, évidemment, tu parles de la monnaie, on parle des timbres aussi. César avait compris il y a 2000 ans que se mettre le visage sur une pièce de monnaie, c'était pas anodin sur le plan des relations publiques. Les produits dérivés,
oui.
Je pense aux tasses, ça passe par les puzzles, ça passe par un paquet d'autres choses. Warhol, qui en 85 avait fait un tableau de la reine Élisabeth. Moi, à bien des égards, sur le plan strictement de la culture populaire, pour moi, ça, là, c'est une consécration parce que ce que ça nous disait, c'est qu'elle faisait partie maintenant des produits de consommation. Un peu à l'instar d'Elvis, de Marilyn Monroe également. C'est le lancement des Jeux Olympiques.
Ben oui.
À Londres.
Ben, rappelle-nous un peu, Luc, là, à Londres, il s'était passé, c'était l'ouverture des Jeux Olympiques. Puis là, oui. La reine avait fait une entrée spectaculaire.
Oui, absolument. Et on est arrivé en avion. Bon, évidemment, il y avait James Bond, qui serait le deuxième sur le plan de la culture pop, là, si on cherchait après la reine Élisabeth. Puis je le dis sans rire, parce que j'ai souvenir, quelque part, au milieu des années 80, j'étais tombé sur une étude qui avait montré que 50% de toute la nouvelle internationale au Québec c'était ce qui se passait avec la monarchie. C'était la reine Élisabeth. Alors, pour ceux qui ne seraient pas certains que c'est important, là, c'était 50% de toutes les nouvelles. Alors, effectivement, les Jeux olympiques, mais non seulement ceux de Londres, en collaboration avec James Bond, qui avait joué le jeu. D'ailleurs, elle avait aussi, elle gagnait par la suite le titre de la meilleure Bond girl de tous les temps, momentanément, ce qui n'est pas anodin. Mais les gens l'ont peut-être oublié. C'est elle aussi qui avait ouvert les Jeux olympiques de Montréal.
Ah! Hey, c'est oui, vrai, mais je me rappelais plus de ça du tout.
Oui, absolument. Barbie, on avait lancé en avril dernier une Barbie.
Une Barbie Reine Élisabeth.
Reine Élisabeth. The Crown avec Netflix. Et là, ce que je trouve remarquable ici, c'est qu'on avait réussi à humaniser la personne. Hein? Souvent, on se disait, c'est juste la figuration ce qu'elle fait. C'est rien d'autre que serrer des mains, participer à des cocktails et tout ça. Puis là, momentanément, ben, ce qu'on réalise, c'est que derrière ça, il y a une personne humaine qui a eu ses problèmes amoureux, ses problèmes sur le plan politique, sur le plan idéologique également. Elle a eu deux petits moments difficiles, je pense, sur le plan de la culture pop. Le premier, c'est le décès de Lady Di.
Oui.
Son image en avait pris un coup quand même,
oui,
Luc.
Oui. Et ce qu'elle avait fait, et ça montre qu'elle avait une très grande maîtrise des médias sur ce plan-là, et que ça fait toujours partie intrinsèque de la culture pop, c'est qu'elle avait refusé de mettre les drapeaux en berne. Et puis, t'as une couple de très bons films hein, qui ont été faits là-dessus, dont un en particulier, où tu la vois qui regarde par la fenêtre et qui visiblement comprend qu'il se passe quelque chose. Elle reçoit les journaux chaque matin, elle épluche tout ça, et là, c'est relationniste avec elle qui travaille. Et pendant ce temps-là, il y a le prince Philippe qui, lui, dit, voyons, c'est pas important, c'est juste Lady Di, oublie ça, passons à autre chose, les gens rapidement vont oublier. Et elle a ce coup de génie de dire, la journée avant l'enterrement, donc la célébration, qui était un événement absolument mondial. Pour ceux qui ont connu ça, là, aujourd'hui, ça peut sembler étrange de raconter ça comme ça, mais c'était, je me rappelle même de la sonorité de la journée, parce que tout au long de la procession, il y avait une espèce de cloche là, très, très fort. Là. C'était remarquable sur le plan, je dirais, psychologique, très bien fait. Et la journée d'avant, elle avait dit, il faut absolument que je m'adresse aux Britanniques. Et elle avait pris la parole. Remarquez qu'elle avait ce talent-là. À chaque année, je rappelle qu'elle faisait le fameux discours du Nouvel An, qui était retransmis, tenez-vous bien, dans quelque chose comme à peu près une soixantaine de pays, parce que ce qu'on oublie, c'est que le Commonwealth, c'est 54 pays, et elle était le chef d'État dans 14 autres pays, si bien qu'au total tout, c'était 2 milliards de personnes, donc à peu près 25% de la population, chaque année, s'enfarger dans ce discours-là. Mais au moment de Lady Di, effectivement, je reviens là-dessus, Patrick, momentanément, j'ai souvenir qu'on s'est même posé la question, est-ce qu'on n'assiste pas à la fin de la monarchie? Le plus près qu'on a passé, c'est à ce moment-là. Puis ce que ça nous rappelle, c'est qu'on est encore une fois essentiellement dans le domaine du symbole et de la culture pop. Parce qu'au fond, Lady Di, son décès, elle n'était plus d'ailleurs avec son conjoint à l'époque, mais elle a, la reine Élisabeth, ce coup de génie-là de prendre la parole. Et l'autre moment où ça a été un petit peu plus difficile, quoique je vais m'empresser de dire très rapidement qu'elle a gagné haut la main, c'est quand Meghan Markle et le prince Harry ont pris la parole à Oprah, donc espèce de confession publique. Et là, momentanément, on a mesuré l'opinion publique. Et ce qu'on s'est aperçu assez rapidement, c'est que les Britanniques étaient encore avec la reine Élisabeth. Et ça explique pourquoi. Et moi, sa grande force, à mon avis, c'est qu'elle a traversé une tonne de crises. Quand on y pense aujourd'hui, c'est l'Irlande, vous vous souvenez, quand on était plus jeune. C'était ça le
il y avait des troubles, il y avait du terrorisme sur le territoire anglais. Là, c'était pas simple la relation Irlande-Angleterre.
Il y avait eu la mine aussi plus tôt. Là, il y avait des enfants qui avaient été tués
à Galles, au pays de Galles.
Exactement.
Oui, et c'était l'Afrique aussi, parce que plusieurs de ces pays-là, et les Caraïbes, il faut encore visiter les Caraïbes aujourd'hui pour s'apercevoir comment son empreinte est absolument omniprésente. Mais Gallup, l'Institut de sondage, a raconté récemment qu'elle a été élue la une ou la femme la plus populaire à l'échelle planétaire 52 fois. Alors, c'est sûr que si on me demandait symboliquement ce qu'elle incarnait, là, si j'avais juste un mot, c'est stabilité. Si j'en avais deux, je rajouterais sécurité. Puis si j'en avais trois, j'ajouterais tradition. Alors là, la question qu'on peut se poser à partir de maintenant, c'est qu'évidemment, tout ce qu'on vient de se raconter là, avec Charles, qui va prendre le poste, entre guillemets, là, on est complètement dans autre chose. Et on est aussi, je le rappelle, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec ce qui se passe en Europe actuellement avec la crise de l'énergie et ce qui se passe en lien avec la Russie aussi, l'hiver va être terrifiant en Europe, qui s'en vient. Mmh. Alors ça, c'est comme le petit moment, là. Je pense que pour la prochaine semaine et demie, deux semaines, en Europe, on va être beaucoup là-dessus. Et après ça, on va revenir à l'implacable réalité qui va être l'hiver avec des problèmes énergétiques absolument criants.
Et avec un roi non charismatique. Merci beaucoup, Luc Dupont. Oui.
Absolument. Et c'est là qu'on va réaliser que tout ce qu'on vient de se raconter là sur le plan symbolique et sur le plan donc de la culture pop, c'était excessivement important. À la fin, au fond, c'était quoi la reine Elisabeth? C'était la tour Eiffel des Britanniques. Si vous cherchez quelque chose, là, c'est à peu près ça. Puis derrière elle, il y avait James Bond. Après ça, on est donné.
Merci Luc Dupont de nous avoir rafraîchi la mémoire.
Merci Luc. Luc Dupont, professeur de communication à l'Université d'Ottawa.
Et ce qui était fascinant aussi, c'est qu'elle a inspiré plusieurs créateurs de mode. On le sait, la reine s'habillait de couleurs vives. Et il y avait une raison pour ça, c'est qu'elle devait se faire remarquer dans un groupe de personnes. Donc, il y a évidemment Stella McCartney, Chanel, Thierry Mugler, Givenchy, Christian Dior, qui ont fait des tenues pour la reine, oui. En fait, qui ont été inspirées par la reine. Et moi, je voulais rappeler qu'au début de son jubilé de platine, lorsqu'il y a eu le grand concert, il y avait cette petite vidéo avec l'ours Paddington.
Oui.
Où ils prenaient tous les deux le thé. C'est un autre croisement avec la culture populaire. C'était tout à fait mignon, oui. Là, cette scénette.
Oui. Puis, mais c'est ça qui était le fun. Puis, tu vois, le truc avec James Bond aux Olympiques, c'est Harry qui l'aurait convaincu de participer à ça. Donc, il était quand même à l'écoute. C'est une jeunesse, on va dire, dorée, là, qu'Harry a vécu, mais elle était quand même à l'écoute de ce qui se passait malgré tout.
Qu'est-ce qui s'était passé? Raconte la scène.
Ben, c'est-à-dire que, globalement, c'est que...
James Bond va la chercher.
Va la chercher, et là...
À Buckingham?
Oui, et là, elle est à son bureau, dans son cabinet, il va la chercher, il monte dans un hélicoptère, traverse Londres. Animation qui ont mal vieilli, malgré les 10 ans qui nous séparent des Olympiques, je sais à le dire. Et là, elle a sauté dans le stade en hélicoptère. Évidemment, c'est une doublure.
Comme en parachute. Ouais.
Comme en parachute avec James Bond. Et
moi, donc, ce qui m'avait marqué, c'était l'humour britannique.
Oui.
C'est-à-dire que dans son visage, elle conservait par exprès un sérieux artificiel.
Ben, comme avec la vidéo de l'ours Paddington, c'est très narquois. C'est
tout à fait au courant que c'était comique de jouer ça. Là.
Mais moi, j'ai adoré les deux interventions, Paddington et James Bond. Pour moi, ça démontrait que parfois, on peut sortir du rôle.
Puis elle est bonne actrice quand même pour quelqu'un qui joue jamais. Là.
Elle avait tous les talents.
Ben oui.
Tous les temps. Pas mal, hein? On lui connaît aucun défaut.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.